France Inter.
Née en Bulgarie, adoptée par la France et vice-versa, l'écrivain, théoricienne et psychanalyste Julia Kristeva est arrivée dans l'Hexagone avec 5 dollars en poche, une brosse à dents et 2 livres de Hegel, La phénoménologie de l'esprit et La science de la logique. Elle travaille sur le nouveau roman, rencontre Philippe Solers avec lequel elle se marie en 67 et travaille à l'école des hautes études avec Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss et d'autres structuralistes, puis au laboratoire de Lévi-Strauss sur des auteurs comme Lautréamont, Mallarmé, Artaud, Joyce, Proust ou Céline. Ancienne membre du groupe Tel Quel, fondatrice du centre Roland Barthes, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, membre titulaire de la Société psychanalytique de Paris, fondatrice du prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes et cofondatrice du Conseil national du handicap, celle qui a reçu en 2004 le prix Holberg, équivalent du Nobel pour les sciences humaines, interroge les limites du langage et de l'espace psychique ainsi que la question du féminin. S'intéressant aux figures d'une certaine révolte, comme Simone de Beauvoir, Anna Arendt, Mélanie Klein, Colette ou Thérèse Davila, Julia Kristeva, dans ses mémoires intitulées « Je me voyage », écrit « Un trouble me saisit à chaque fois. Qui est cette Julia Kristeva dont on parle? Laissez-moi vous faire un aveu, je n'arrive pas à habiter mon image, celle que les autres me renvoient. Je me vis comme en voyage, mon élément serait l'eau vive et mon but, poursuivre ce flux, frayer la route. » Dans Bulgarie, ma souffrance, elle emploie l'expression « monstre de carrefour » pour se définir, ce qui ne la limite justement pas, puisqu'elle implique l'hybridité et l'étrangeté. L'intellectuelle vient de faire paraître chez Fayard Prélude à une éthique du féminin, anthologie de diverses interventions dont les textes entrent parfois en résonance. Une réflexion générale autour du féminin, dont celui présent chez l'homme. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Julia Kristeva.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
Je ne sais pas si c'est enthousiasmé, mais ça m'a beaucoup surprise. Je visite ces derniers temps les transmissions de Metropolitan Opera à Paris, sur les écrans de certains cinémas, et j'ai assisté à la diffusion de Aïda. Et j'étais surprise d'entendre les deux acteurs, Aïda et Radames, chanter « Patria Mia », qui est une merveille. Mais plus je l'entendais, plus j'étais troublée, parce que je me disais, mais si j'étais à leur place, quelle était ma patrie ? Et je disais, dans un premier temps, c'est bien sûr la France, parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en français. Et puis je me suis dit, mais si j'étais au bord de la mort ou dans une prison comme ces deux personnages, je parlerais peut-être aussi de la Bulgarie qui m'a donné l'alphabet comme incarnation de mon enfance. Et puis, brusquement, Yannick Nézet-Séguin, qui était le chef d'orchestre, a dit, mais tout ça, c'est Patria Mia, c'est très, aujourd'hui, ça sonne patriotique, mais moi, dit-il, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond. Quelque chose de plus profond, je ne sais pas quoi, mais peut-être que ceux qui sont dans la salle le comprennent. Et la psychanalyste tout à coup s'est réveillée et j'ai trouvé que dans mon esprit, un Freud qui n'est pas très connu parle du père de la préhistoire individuelle. Patria, c'est la patrie, mais au féminin, et que ce monsieur, qui est le père de la préhistoire individuelle, n'est pas le père édipien dont on a peur et dont on va accepter les lois, mais c'est quelqu'un qui a les qualités des deux sexes, qui est bisexuel.
Vous parlez d'une tierceté bisexuelle.
L'enfant, la mère, et le père, le tiers, mais qui est bisexuel, et qui est l'aurore de l'idéal de moi, et qui permet de se sublimer, de passer des pulsions, des ressentis, du sensoriel, à du psychique, du langage, peut-être des idées. Et c'est peut-être ça qui nous émeut quand de patriotisme devenu sectaire et revanchiste trouble le monde moderne, et nous ne savons pas très bien à quel ça nous vouer, c'est le cas de le dire, mais qui est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et essayer d'affronter ces problèmes politiques avec des outils plus subtils, la littérature, l'art et la psychanalyse par exemple.
Julia Kristeva, on entend l'air dont vous venez de parler, interprété par la soprano américaine Angel Blue, dirigée par Yannick Nézet-Seguin. Lacan parlait de comédie hétérosexuelle et vous de bisexualité psychique. Qu'est-ce ?
Écoutez, la comédie hétérosexuelle, on l'entend parce que l'hétérosexualité aujourd'hui est soumise à deux épreuves. D'une part, si on écoute Netflix ou d'autres cinémas ou télévisions mondialisées, le bonheur et le couple qui se marie et toutes les jeunes filles et jeunes hommes aussi ne pensent qu'à ça. Comme si on n'avait plus de valeurs, mais c'était les valeurs suprêmes. Et de l'autre côté, il y a tellement de violence, tellement d'explosions de haine et d'agressivité dans les couples, puisque la complexité n'arrive pas à s'exprimer, que nous le voyons dans l'histoire de Mazan, par exemple, et autres atrocités en France, mais sans parler des différentes religions qui exploitent les femmes dans la vie familiale est insupportable. Permettez-moi de vous rappeler, j'ai eu la chance d'obtenir le prix Hannah Arendt pour la pensée politique que j'ai donné aux femmes afghanes qui s'immolent par le feu pour protester contre cette situation de femmes obligées de se marier avec des mariages préconçus et absolument imposés. Et j'ai donné ce prix à une ONG qui s'occupe à aider ces femmes qui ont survécu à leur immolation et pour qu'elles essayent de survivre. Et devant cette violence dans les couples hétérosexuels et par rapport aux femmes, on peut croire, et je le cite souvent, à une prophétie que Proust a reprise, les deux sexes mourront chacun de ce côté. C'est une espèce de, plus que de comédie hétérosexuelle, c'est une indication sur la fragilité. C'est Alfred de Vigny qui dit ça, mais Proust le reprend et la recherche traverse cette particularité de homosexualité ou hétérosexualité. Mais la situation est plus complexe que ça. Cette hétérosexualité est d'une fragilité et peut-être d'une menace pour certains, mais c'est aussi une capacité de se rencontrer à deux. De chaque côté de la différence sexuelle, il y a des bisexualités. Le couple est finalement à quatre, fusion et diffusion, destructivité et passage de l'ombre de la mort même et de la colère, mais jouissance enfin avec à l'horizon la venue ou non d'un tiers absolu, l'enfant. Cette expérience de l'hétérosexualité a été reprise par Freud de manière tout à fait enthousiaste, qu'on ne cite pas assez, parce qu'il dit, et permettez-moi de le citer, l'hétérosexualité rend la relation de masse, de classe, de nation, et permet des acquisitions culturelles importantes. C'est quelque chose qui est aussi repris par Bataille dans l'expérience intérieure, mais à la fois plénitude de la jouissance et risque de cette expérience.
On va venir à Bataille un peu plus tard dans l'émission. On va évidemment parler de complexité puisque toute votre œuvre lui fait la part belle. Mais vous écrivez, Julia Kristeva, pour être dans la continuité de ce qu'on vient d'évoquer, chaque sujet invente son sexe spécifique qui est tout simplement sa créativité. C'est très encourageant, ça. C'est la liberté de se créer soi-même.
Écoutez, c'est la conclusion de ma trilogie sur Hannah Arendt, Melanie Klein et Colette, qui sont des génies féminins pour moi, et la génialité n'étant pas une descente du divin chez les humains, comme les romantiques nous ont conduits à le penser, mais c'est la singularité qui s'assume, et une singularité qui est capable de se reconstruire, de se réformer, de rebondir et d'être partageable. Et dans ce mouvement de retransformation, c'est la capacité d'être singulier et libre et qui m'a paru l'indice même de la génialité, féminine en particulier, de mon idée du féminin transformatif.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Julia Kristeva, vous disiez déjà en 96 dans l'Humanité, les femmes redeviennent l'enjeu majeur non seulement de la vie politique immédiate, mais massivement pour le troisième millénaire. Quelle est cette sensibilité féminine que vous voyez aussi dans les hommes et qui est si singulière ?
Je pense que dans mon expérience clinique, j'étais confrontée à cela et depuis mon enfance, dans ma Bulgarie natale, les femmes, le féminisme n'existait pas encore, mais les femmes devaient travailler. Il y avait une sorte d'impulsion vers la réalisation féminine et à la maison, j'utilisais cette invitation pour faire la guerre à mon père. J'étais le garçon de la maison et j'attaquais son côté croyant, son orthodoxie, en m'appuyant sur le silence complice de ma mère qui était darwinienne. D'emblée, je suis devenue une féministe atypique. Et je ne me sens pas appartenir à quelque mouvement que ce soit.
Vous avez tenté l'expérience, mais l'aspect dogmatique vous en a découragé.
Voilà, parce que j'ai l'impression que le féminisme est peut-être un des derniers mouvements de libération issus de la Révolution française. Après les bourgeois, les prolétaires et les femmes maintenant, et que dans ces mouvements, dans ces enthousiasmes, il peut y avoir beaucoup de totalitarisme, de souhaits paradisiaques, évangéliques, éventuellement laïcisés, mais qui ne s'intéressent pas à l'individu, mais à la condition sociale. Et dans ce mouvement-là, on oublie qu'une des grandes acquisitions culturelles de l'Occident est le respect de la singularité. D'où le fait que je me dis, je ne suis pas vraiment féministe, je suis scotiste au sens de Dan Scott qui disait que la vérité n'est pas dans les concepts qui sont trop abstraits, ni dans la matière qui est obscure, mais dans le pronom personnel, ceci, cela, cet homme-ci, cette femme-là. Et donc cette singularité, j'essaye de la voir à travers mon expérience de psychanalyste. Je ne suis plus un intellectuel du XXe siècle, je suis devenue psychanalyste pour essayer de chercher cette lumière singulière dans chacun de mes analysants et que je retrouve de manière particulière chez les femmes. Donc, ce qui m'a semblé tout à fait particulier, c'est la capacité de la de se construire, de construire le féminin chez la femme de manière très spécifique et qui la distingue de la construction de l'homme. Simone de Beauvoir, je reprends souvent cette position, dit « on ne naît pas femme, on le devient ». Et je change un peu ce précepte, ce slogan maintenant. On est femme, il y a une différence biologique, mais je le deviens. Qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu, dans cette construction subjective? D'abord, la petite fille a comme relation et comme objet d'amour sa mère. Donc, le premier objet est un objet du même sexe. C'est un Œdipe bis qui va peut-être permettre à Freud de dire plus tard que la bisexualité et l'homosexualité est plus développée chez la femme que chez l'homme. Mais l'évolution féminine ne s'arrête pas là. Au bout de quelques années, elle rencontre le tiers, le père auquel elle s'identifie, mais dont elle devient amoureuse aussi. Et donc, il y a un changement d'objet. L'objet amoureux n'est plus maman, mais papa. Et puis, ça ne s'arrête pas. Dans le couple, quel qu'il soit, homo ou hétérosexuel, advient un tiers. Et il y a aussi la reliance maternelle, l'amour de cette troisième dans la famille qui s'ajoute au panoplie de la construction féminine. Donc cette capacité de se mouvoir entre différentes relations d'objets fait que la femme a une complexité qui lui donne une étrange maturité contre Monsieur bébé, qui est souvent l'homme surmoïque, et cette complexité du féminin se retrouve aussi dans certains hommes qui sont capables aussi d'être féminins. C'est ça que je développe aussi. On a, par exemple, Anish Kapoor, dont j'utilisais un tableau, on m'a écrit « I'm pregnant ». Un homme aujourd'hui peut dire ça sans avoir peur d'être aguicheur ou complexe ou pervers ou révolutionnaire. Ça paraît tout à fait acceptable.
Lorsque j'ai été nommée professeure à Marseille et que je tenais beaucoup à mes amitiés à Paris et particulièrement à Sartre, dont je venais de faire la connaissance, il m'a proposé... Voyant que quand même la séparation m'angoissait un peu, il m'a proposé que nous nous marions et j'ai absolument, décidément, tout de suite refusé. Parce que je pensais qu'il fallait à une femme une certaine solitude et une liberté qui ne peut venir que de cette certaine solitude et que même si on s'entend très très bien avec quelqu'un, il ne faut pas être entièrement dévoré par une vie commune. Et pour moi, c'était d'autant plus essentiel que, comme je viens de vous le dire, je voulais devenir écrivain.
Simone de Beauvoir en 1985 sur Antenne 2. Julia Kristeva, vous avez créé en 2008 le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes, récompensant l'œuvre et l'action de personnes qui contribuent à promouvoir la liberté des femmes dans le monde. Simone de Beauvoir, c'est aussi une figure dont vous vous êtes distanciée et c'est peut-être en cela qu'on voit la marque de l'intelligence, être capable d'admirer un être ou un courant tout en étant capable d'une distance critique.
Oui, en effet, j'ai reçu le deuxième sexe quand j'étais en Bulgarie et j'étais absolument fascinée par son œuvre et sa démarche, sa liberté, sa révolte. Je reviens sur sa gêne à l'égard de la juridiction qui attacherait un homme à une femme et une femme à un homme par la loi du mariage et les contraintes que cela peut impliquer pour le développement de la pensée, de la créativité, en particulier de la femme. Elle a tout à fait raison de mettre le point là-dessus. Et de se lancer par ailleurs dans un combat pour la libération de la condition féminine. Son existentialisme lui permet aussi de penser que la liberté se conjugue au singulier. Mais toute son œuvre oublie cette singularité, me semble-t-il, et ce que j'essaye de dire dans la préface du deuxième sexe, elle s'est consacrée à la féminité comme condition et non pas pas la singularité et la créativité de chaque femme, même si dans son travail d'élucidation du féminisme, elle prend des exemples singuliers de femmes et de carrières particulières, Théroigne de Méricourt, Sainte Thérèse d'Avila même, ou Colette. Donc mon interprétation et ma manière de prolonger son héritage, c'était d'une part de singulariser le féminin. Il n'y a pas les femmes, il n'y a pas non plus la femme, comme dit Lacan, mais chacune est singulière, et cette singularité est à prendre au sérieux, à développer à partir de cette évolution des doubles Œdipes dont je parlais tout à l'heure, et les capacités que la société donne à ce que ça devienne une liberté.
D'ailleurs, dans Prélude à une éthique du féminin, on trouve évidemment des textes faisant l'éloge de certaines grandes femmes, mais aussi d'hommes. Alors, je vais commencer par une femme. J'aimerais que vous nous disiez un petit mot sur la dissidente, poétesse et romancière bulgare Blaga Dimitrova, aimée du poète turc Nazım Hikmet et apparaissant dans une nouvelle de John Updike.
Mais je vous remercie de parler d'elle parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marquée. Mon père était fasciné par elle. C'est une femme très belle qui a le même âge que ma mère et qui est poétesse, qui s'est mariée relativement tard et qui a adopté une jeune vietnamienne. Donc elle a vécu aussi la maternité que Beauvoir a évité, et c'est, je pense, dommage. Blaga Dimitrova porte le nom de famille d'un grand communiste, premier secrétaire de l'Internationale dans les années 30, Georgi Dimitrov, qui était accusé par les Hitlériens d'avoir mis le feu à Reichstag. Et c'était le premier procès contre l'hitlérisme. Et on voyait partout en Bulgarie Dimitrov accusé Göring et dominer le futur fascisme. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui porte ce nom, comme Blaga Dimitrova, combien elle doit être fascinée, pas par le communisme à proprement parler, mais par la résistance politique au fascisme et tout ce que le monde a vécu. Mais j'avais écrit sur cette poétesse un texte qui est mon dernier texte en bulgare, qui n'a jamais été traduit, sauf il y a une dizaine d'années, par une revue suisse, et dans lequel je mets en évidence une phrase que ma mère répétait beaucoup et sur lesquelles Blaga Dimitrova a fait un poème et qui dit « Je ne couvre pas mes filles, je ne les couvre pas de mes ailes, mais je leur donne des ailes. » Et ceci m'a permis de considérer que Blaga a sa place dans ce livre sur le féminin.
Tout à l'heure, vous avez dit qu'il était dommage que Simone de Beauvoir n'ait pas eu d'enfant. Pourquoi ?
Parce que je pense que si la capacité maternelle de porter un enfant, de l'élever et de lui permettre de devenir créatif dans sa langue et dans sa vie, si cette dimension n'est pas prise non pas comme un esclavage, ce qu'elle a été pendant des millénaires, mais comme une possibilité entourée par des soins de l'État, de la nation elle-même, au niveau de la protection, du choix de la maternité ou non, au niveau de l'éducation des enfants, il y a quelque chose dans l'expérience humaine qui va conduire à l'automatisation de l'espèce et qui fait barrage à cette expérience unique contre la mère, qui est l'urgence de la vie.
Mais vous pouvez comprendre tout de même que certaines femmes ne veuillent pas avoir d'enfants.
Bien sûr, c'est un choix. C'est ce que je disais dès le début.
Oui, ce sont les raisons du refus de Simone de Beauvoir que vous remettez en question.
Oui, parce qu'il faut absolument se à la fois concentrer sur la richesse de cette expérience, qui est de vivre l'urgence de la vie comme une capacité de déployer des énergies, de donner des énergies à l'autre et de recevoir des énergies de ces gens-là vers soi-même pour essayer de continuer la vie de l'espèce. Et cette responsabilité humaine, si on ne la prend pas au sérieux, on arrive à une automatisation de l'espèce qui ne peut pas être acceptable, et sans que, évidemment, ce que je dise empêche de transformer la maternité sous une forme plus abstraite, non, mais plus intellectualisée et sublimée, par exemple dans les métiers de soins ou dans les métiers de l'éducation, et que l'homme développe ça avec les enfants qui ne sont pas les siens, mais ceux qu'il a adoptés.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Julia Kristeva, pour résumer très brièvement, vous vous êtes détournée de la politique après votre voyage en Chine en 1974 avec Philippe Solers et d'autres intellectuels, et vous avez décidé de vous consacrer à la psychanalyse. Mais vous suiviez à l'époque des cours de chinois, et il y a deux phrases de Mao que vous affectionnez, mais que vous appliquez au couple. Ce sont les suivantes. D'erreur en erreur jusqu'à la victoire, et on ne peut compter que sur ses propres forces. Alors la question est la suivante, n'apprend-on vraiment que par l'erreur ?
Sans doute, les échecs et les erreurs font partie de l'expérience. Mais ce qui est très important dans cela, c'est à la fois la capacité d'assumer la solitude et d'être toujours à l'écoute de la réception. Dans cette espèce d'équilibre dont parlait tout à l'heure Simone de Beauvoir aussi, je trouve que l'expérience de la maternité nous conduit de manière encore plus poignante. Les maladies, les échecs qu'on implique, qu'on renvoie à nos proches, la violence dans l'intrafamiliale, sans qu'on le veuille ou consciemment ou non, tout ce déchaînement de la colère dans la vie intime, la psychanalyse est peut-être le lieu le plus fragile et le plus pertinent pour faire que l'erreur soit acceptée et traversée.
D'ailleurs, vous vous interrogez, la psychanalyse n'a-t-elle pas été inventée parce que nous sommes dangereux les uns pour les autres ? Et c'est très intéressant comme interrogation puisque vous dites que les philosophes des Lumières ont renforcé votre goût pour la nuance, la mesure, la prise en compte de la complexité. Vous avez co-créé le cercle Montesquieu, et j'ai adoré cet intitulé, pour des échanges où personne n'est propriétaire de la vérité. Mais ça fait un bien fou d'entendre ça aujourd'hui, où tout le monde veut absolument asséner sa vérité. Comme si la complexité était une chose taboue, qu'on ne pouvait plus accepter, ni regarder en face, ni analyser.
On a essayé de créer et de faire vivre ce cercle au Collège des Bernardins, et c'est quelque chose qui est possible peut-être dans notre tradition gréco-judéo-chrétienne lorsqu'elle se met en question et lorsqu'elle arrive à un humanisme qui n'est pas hostile aux religions, mais qui les accepte, qui les approfondit, qui les élucide.
Et qui accepte le mal aussi.
Et dans le mal tel que les religions l'ont posé comme tel, pour arriver à autre chose que de la morale avec le bien et le mal, mais ce que j'appelle une éthique, et qui n'est pas une transcendance, et qui s'intéresse à l'immanence de l'être parlant, à la construction subjective, à ses puissances et à ses limites. Et là-dessus, et dans ce domaine-là, où l'éthique n'est pas la morale, Freud a fait un grand pas qui n'est pas suffisamment reconnu. C'est une capacité d'accepter les êtres humains, non pas en les jugeant, mais en les évaluant. Et dans cette évaluation, il n'a pas de principes transcendantaux, le bien et le mal. Dans principes de psychanalyste, il y en a deux, le principe de plaisir et le principe de réalité. Et une seule optique, elle est là où j'étais. À partir de là où j'étais, aller jusqu'au fond de l'inconscient. Là où j'étais, je dois advenir.
Vous y êtes allé ?
J'essaye de le faire, ça n'arrive pas tous les jours, mais il y a des moments de grâce dans chaque analyse, et je garde ces moments-là quand je vois quelqu'un en pleurs sourire en quittant le divan.
Écrire malgré tout, n'est-ce pas, bien que lorsque j'aligne des phrases, n'est-ce pas, j'ai un but, j'ai toujours un plan, je sais ce que je vais dire, ou à peu près, Mais tout de même, n'est-ce pas, je n'écris jamais que pour supprimer le but. Ah, et au fond, c'est toujours un plaidoyer, pour la un plaidoyer moral pour la suppression du but.
1951, au micro d'André Gillois sur l'ORTF, Georges Bataille, dont Philippe Solers, Julia Kristeva, vous avez fait lire l'expérience intérieure dans les premiers mois de votre rencontre. Expérience intérieure que vous résumez à l'approbation de la vie jusque dans la mort. Oui. Qu'est-ce à dire ?
Cela veut dire d'essayer de vivre jusqu'aux limites. Je parlais tout à l'heure de l'immanence du sens dans cet esprit de l'éthique, qui est la capacité de donner du plaisir, mais aussi la destructivité. Et la vie avec sa finitude, l'être avec brodé de son néant. J'étais à l'école de Bataille, mais Bataille, si je puis dire, revue et corrigée par Solers, qui n'était pas fasciné par la capacité outrancière et extrême de la sexualité bataillienne, mais qui avait gardé cette confrontation avec la mort, qu'il n'appelait pas la mort, parce que ça, je crois, lui donnait une connotation pessimiste ou mélancolique, mais il appelait le néant. Et j'étais frappée quand j'écrivais la postface de son livre que je vous ai apporté aujourd'hui, parce que je pense que c'est le dernier sur lequel j'ai écrit, qui s'appelle La deuxième vie.
Que j'ai lu, qui est très
qui
bon.
Qui se termine par une phrase sur laquelle je voudrais revenir. Il dit ceci: si le néant est là, il est là, en train de voir le monde éclairé par un soleil noir. C'est quelque chose qui nous renvoie, le soleil noir.
Vous avez écrit dessus.
Mois, que j'ai écrit dessus. Mmh. J'étais venue vous en parler il y a une dizaine d'années.
Oui, dans Remède à la mélancolie.
Et c'est ce néant qui est éclairé par un soleil noir. Le néant, c'est la mort. Elle prend cette forme-là, non mélancolique, mais comme une frisson de l'être, envers coexistentif à notre existence. On peut dire que ça renvoie à notre finitude. Et j'étais frappée de voir que, en faisant la postface de ce texte, j'ai presque lu tout Solers et ça m'a tenue debout la première année après sa mort. Je me suis rendu compte combien, dès le début de son écriture, dans une curieuse solitude, il dit qu'il ne reste rien d'autre à faire, non pas à être le meilleur connaisseur de féminin, comme le disait Mauriac ou Aragon à son sujet, mais de se préparer. L'écriture est une préparation au néant, disait-il. Et cette vision de l'écriture, il l'a maintenue tout au long de son œuvre. Malheureusement, à part Philippe Forest, personne n'a perçu cette dimension de Solers, qui l'a rendu non pas mélancolique, mais d'une pugnacité, d'une capacité de résistance ironique, avec ce rire particulier qui n'avait rien de drôle, mais quelque chose de spasmique, de contagieux, qui est ce soleil noir, qui renvoie à la matière noire, mais qui pense à éclairer le monde. Et qui est éclairé de manière très à la fois musicale, parce que c'est fait par fragments, drôle, intime, etc., tout au long de ces 80 pages de sa deuxième vie, parce que sa deuxième vie était l'écriture, mais perçue justement comme continuation d'un corps glorieux dans le néant, à travers la vie et le combat. Je pense pouvoir continuer l'élucidation de ces dimensions de Solers dans un livre que j'aurais, si j'ai la force de le faire, qui s'appellerait « L'écriture comme un combat spirituel ».
Julia Kristeva, vous faites vôtre la proposition de Sartre selon laquelle l'athéisme est une entreprise cruelle et de longue haleine. Vous qui avez tant écrit et animé de séminaires sur le besoin de croire, qui avez même été invité par le pape Benoît XVI à la journée de réflexion, de dialogue et de prière pour la paix et la justice dans le monde à Assise en 2011, En quoi croyez-vous ? Et je reviens à Bataille, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'expérience intérieure. Moi, en vous lisant, j'ai pensé à Saint Ignace de Loyola et aux exercices spirituels, puisqu'ils peuvent être athées ou agnostiques. On peut chercher la transcendance en ne croyant en rien de divin.
Moi, je suis humaniste et athée, en ce sens que je pense que le transcendant est immanent. Et les grands mystiques se sont rapprochés de cette idée.
Comme Thérèse d'Avila.
Comme Thérèse d'Avila, qui trouve Jésus dans sa septième demeure en elle-même. Dans le voyage à travers elle-même, elle écrit pour donner à comprendre. Ce voyage se fait par l'écriture. C'était son auto-analyse. Et l'écriture comprise comme auto-analyse permet à cela. C'est-à-dire de trouver, non pas la vérité, mais les sens possibles dont je peux disposer par la verbalisation, par le langage destiné à d'autres.
Et on peut d'ailleurs écouter votre texte qui lui est consacré, Thérèse, mon amour, adapté pour la radio et interprété par Amira Kazar, que nous avions reçu. Nous avions d'ailleurs diffusé un extrait.
Vraiment, je me demande si c'est moi, Thérèse, qui parle. Le chemin, c'est la souffrance, le néant de tout, ce tout qui n'est rien. Faites ce qui est en vous, mais en allégresse. Soyez gaies, mes filles. Mariage mystique ou bien mariage spirituel, ce petit Jean de la Croix y voit une différence. Moi, à peine. C'est l'envers et l'endroit, plutôt. Cantique des cantiques, comme toujours et encore. Elle chante faux, mais écrit juste et ne cesse de fonder ses couvents, ses filles, son église, sa gestation à elle, son jeu, un jeu d'échecs. Il est permis de jouer, oui, oui, dans les monastères, surtout dans les monastères, surtout dans les monastères.
Votre choix musical, Julia Kristeva, va être divisé en deux parties. D'abord, la version française de l'air du chérubin de Mozart dans les Noces de Figaro, Mon cœur soupire, par Jacques Lantier, qu'on entend. Et voici la version en italien, Voi che sapete, interprétée par Cecilia Bartoli.
Sì, non è ancora,
J'aimerais, Julia Kristeva, vous interroger sur votre rapport à Mozart, puisque dans un texte, vous écrivez « À mon enterrement, inutile de mentionner ces distinctions, pas question d'égrener ses prix. Il suffira d'écouter le Requiem de Mozart, par exemple, et de dire que je me suis voyagée en essayant d'accompagner les exclus, les fragiles et les mal-aimés. J'ai essayé, c'est tout. »
C'est quelqu'un que j'ai découvert à travers Philippe. Et avec Philippe, c'était un grand amateur de Mozart. Il a écrit un très beau livre sur Mozart. Et il a transmis cette adoration son adoration de Cecilia Bartoli à notre fils David. Et maintenant, quand son père n'est plus là, David est très, très touché, peut-être plus bouleversé et atteint que je ne le suis. Et pour remédier à ça, il écoute Bach et Mozart en me disant qu'il préfère Mozart parce que écouter Mozart avec papa, ça nous permet de démourir. Il a inventé un mot.
C'est
bon. Je me permets de le signaler aujourd'hui avec vous parce que ce que vous me faites entendre là m'aime beaucoup.
Alors là, j'ai parlé de mort, mais vous faites vôtre cette citation de Colette, Julia Kristeva, puisque vous parliez de lumière dans la noirceur. Renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces.
Alors là, c'était quelque chose de très prétentieux, mais mon titre déjà, Génie féminin, a un côté très, très prétentieux. Seulement par rapport à ce que je viens de vous dire tout à l'heure, à savoir que ce n'est pas le divin, mais le singulier que je célèbre dans le génie. Ce qui m'a frappée chez Colette, et je l'ai choisie comme la seule écrivaine parmi les trois philosophes, psy et écrivains, parce qu'elle a vécu la mélancolie, elle a vécu la violence, la colère, la stigmatisation, ça l'a fait beaucoup souffrir, elle a failli en mourir. Et néanmoins, grâce à ce féminin transformatif, par rapport auquel quelque chose de très jovial, jubilant s'introduit dans ce féminin victimaire qu'on veut nous imposer aujourd'hui, se manifeste et je fais mienne cette phrase « Renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces ». C'est ce féminin transformatif qui est capable de le faire, chez l'homme également quand il le possède, et ça nous permet de ne pas être triste dans ce monde qui se délite.
Vous avez toujours été une grande lectrice. Colette, vous l'avez découverte adolescente en Bulgarie. Vous recopiez des pages entières de ses livres. Je ne sais pas si vous avez encore vos cahiers sur lesquels vous recopiez Victor Hugo et Diderot. Vous les avez toujours ?
Oui, je les ai, oui.
Quel est un livre ou plusieurs livres que vous recommanderiez aux auditeurs, justement, comme remède à la mélancolie ? La beauté, pour la beauté.
Colette, sûrement, Proust, parce qu'il y a beaucoup de tristesse.
Et qui disait que le moraliste était forcément triste.
Absolument.
Ça devrait vous plaire.
Mais donc nous ne sommes pas moralistes. Et Bataille, bien sûr.
L'expérience intérieure.
L'expérience intérieure. Et Freud, lisons-le.
Alors lequel ? Quel livre commencer quand on ne connaît rien à Freud ?
Peut-être l'interprétation des rêves. C'est le plus basique et peut-être le plus facile à comprendre aujourd'hui face à l'hyperconnexion.
Merci beaucoup, Julia Kristeva.
Merci à vous.
Votre essai Prélude à une éthique du féminin est paru aux éditions Fayard. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Etel Alzial et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Ludovic Asselot.